Chapitre 28e. Monsieur de Maillefort, frappé de ce que lui avait appris Madame de la Rochegue au sujet de la jeune artiste, si injustement oubliée, disait-on, par Madame de Beauménil, Monsieur de Maillefort avait de nouveau interrogé, avec autant de prudence que d'adresse, Madame Dupont, ancienne femme de chambre de la comtesse. Puisant dans cet entretien de nouveaux détails sur les relations de la jeune fille et de Madame de Beauménil, et devinant, aidé par ses soupçons, ce qui avait dû échapper à la femme de chambre, il acquit bientôt presque la conviction qu'Herminie devait être la fille naturelle de Madame de Beauménil. L'on conçoit néanmoins que, malgré cette persuasion quasi complète, le marquis s'était promis de n'aborder Herminie qu'avec une extrême réserve. Non seulement il s'agissait d'une révélation fâcheuse, presque honteuse pour la mémoire de Madame de Beauménil, mais encore la comtesse n'avait pas confié ce secret à M. de Maillefort, qui l'avait pour ainsi dire surpris ou plutôt deviné. Herminie, à la vue du bossu, qui pour la première fois se présentait à elle dans une circonstance pénible, resta confuse, interdite, ne pouvant imaginer le sujet de la visite de cet inconnu. Le marquis, après avoir expulsé M. Bouffard, revint, disons-nous, auprès de la jeune fille qui, pâle, émue, les yeux baissés, restait immobile auprès de la cheminée. M. de Maillefort, d'un coup d'œil investigateur et pénétrant jeté sur la chambre de la duchesse, avait remarqué l'ordre, le goût et l'excessive propreté de cette modeste demeure. Cette observation, jointe à ce que Madame de la Rochegue lui avait raconté du noble désintéressement de la jeune fille, donnèrent au marquis la meilleure opinion d'Herminie. Presque certain de voir en elle la personne qu'il avait tant d'intérêt à rencontrer, il cherchait sur ses traits charmants quelque ressemblance avec ceux de Madame de Beauménil, et cette ressemblance, il crut la trouver. De fait, sans ressembler précisément à sa mère, comme elle, Herminie était blonde, comme elle, elle avait les yeux bleus, et si les lignes du visage ne rappelaient pas exactement les traits de Madame de Beauménil, il n'existait pas moins entre la mère et la fille ce qu'on appelle un air de famille, surtout frappant pour un observateur aussi intéressé que l'était M. de Maillefort. Celui-ci, sous l'empire d'une émotion que l'on concevra sans peine, s'approcha d'Herminie, de plus en plus troublé par le silence et par les regards curieux et attendris du bossu. « Mademoiselle, lui dit-il enfin d'un ton affectueux et paternel, excusez mon silence, mais j'éprouve une sorte d'embarras à vous exprimer le profond intérêt que vous m'inspirez. » En parlant ainsi, la voix de M. de Maillefort fut si touchante que la jeune fille le regarda, de plus en plus surprise, et lui dit timidement, « Mais cet intérêt, monsieur, qui a pu vous l'attirer, n'est-ce pas? Je vais vous le dire, ma chère enfant. » « Oui, » ajouta le bossu en répondant à un mouvement d'Herminie, « Oui, laissez-moi de grâce, vous appelez ainsi. Mon âge, et je ne saurais trop vous le répéter, l'intérêt que vous m'inspirez, me donnerait peut-être le droit de vous dire, ma chère enfant, si vous me permettiez cette familiarité. Ce sera la seule manière de vous prouver, monsieur, ma reconnaissance des bonnes et consolantes paroles que vous venez de me dire, quoique la pénible position où vous m'avez vu, monsieur, ait dû, peut-être. Quant à cela, reprit le marquis en interrompant Herminie, rassurez-vous, je... Oh, monsieur, je ne cherche pas à me justifier. Dit orgueilleusement Herminie en interrompant à son tour le bossu. « De cette situation, je n'ai pas à rougir, et puisque, pour une raison que j'ignore, vous voulez bien me témoigner de l'intérêt, monsieur, il est de mon devoir de vous dire, de vous prouver, que ni le désordre, ni l'inconduite, ni la paresse ne m'ont mise dans le cruel embarras où je me trouve pour la première fois de ma vie. Malade pendant 2 mois, je n'ai pu donner mes leçons. Je les reprends depuis quelques jours seulement. » Et j'ai été forcé de dépenser le peu d'avance que je possédais. Voilà, monsieur, la vérité. Si je me suis un peu endetté, c'est par suite de cette maladie. Ceci est étrange, pensa soudain le marquis en rapprochant dans sa pensée la date du décès de la comtesse et l'époque présumable du commencement de la maladie d'Herminie. C'est peu de temps après la mort de Madame de Beauménil que cette pauvre enfant a dû tomber malade, serait-ce de chagrin? Et le marquis reprit tout haut, avec un accent de touchant intérêt. Et cette maladie, ma chère enfant, a été bien grave. Vous vous êtes peut-être trop fatiguée au travail. Herminie rougit. Son embarras était grand. Il lui fallait mentir pour cacher la sainte et véritable cause de sa maladie. Elle répondit en hésitant. « En effet, monsieur, je m'étais un peu fatiguée. Cette fatigue a été suivie d'un malaise, d'une sorte d'accablement. Mais maintenant, Dieu merci, je vais tout à fait bien. » L'embarras, l'hésitation de la jeune fille, avait frappé le marquis, déjà surpris de la profonde mélancolie dont les traits d'Herminie semblaient avoir, pour ainsi dire, l'habitude. « Plus de doute, pensa-t-il, elle est tombée malade de chagrin après la mort de madame de Beauménil. Elle sait donc que la comtesse est sa mère, mais alors, comment celle-ci, dans les fréquentes occasions qui ont dû la rapprocher de sa fille, ne lui a-t-elle pas remis ce portefeuille dont elle m'a chargé ?» En proie à ses perplexités, le bossu, après un nouveau silence, dit à Herminie « Ma chère enfant, j'étais venu ici avec l'intention de me tenir dans une extrême réserve. Défiant de moi-même, incertain de la conduite que j'avais à tenir, je ne voulais aborder qu'avec la plus grande précaution le sujet qui m'amène, car c'est une mission bien délicate, une mission sacrée. Que voulez-vous dire, monsieur ? Veuillez m'écouter, ma chère enfant. Ce que je savais déjà de vous, ce que je viens de voir, de deviner peut-être, enfin la confiance que vous m'inspirez change ma résolution. Je vais donc vous parler à cœur ouvert, certain que je suis de m'adresser à une loyale et noble créature. Vous connaissiez madame de Beauménil, vous l'aimiez. » Herminie, à ces paroles, ne put réprimer un mouvement d'étonnement mêlé d'inquiétude. Le bossu reprit. « Oh, je le sais. Vous aimiez tendrement madame de Beauménil. Le chagrin de l'avoir perdue a seul causé votre maladie. Monsieur !» s'écria Herminie, effrayée de voir son secret, celui de sa mère surtout, presque à la merci d'un inconnu. « Je ne sais ce que vous voulez dire. J'ai eu pour madame la comtesse de Beauménil, pendant le peu de temps que j'étais appelé auprès d'elle, le respectueux attachement qu'elle méritait. Ainsi que tous ceux qui l'ont connue, je l'ai sincèrement regretté, mais... « Vous devez me répondre ainsi, ma chère enfant, » dit le marquis en interrompant Herminie. « Vous ne pouvez avoir confiance en moi, ignorant que je suis, ignorant jusqu'à mon nom. Je m'appelle monsieur de Maillefort. » « Monsieur de Maillefort ?» dit vivement la jeune fille, en se souvenant d'avoir écrit pour sa mère une lettre adressée au marquis. « Vous connaissiez mon nom ?»« Oui, monsieur. Madame la comtesse de Beauménil, se trouvant trop faible pour écrire, m'avait prié de la remplacer, et la lettre que vous avez reçue, c'était vous qui l'aviez écrite ?»« Oui, monsieur. Vous le voyez, ma chère enfant, maintenant vous devez être en toute confiance. Madame de Beauménil n'avait pas d'amis plus dévoués que moi. » Et sur cette amitié de 20 ans, elle a cru pouvoir assez compter pour me charger d'une mission sacrée. « Que dit-il ? » pensa Herminie. « Ma mère lui aurait-elle confié le secret de ma naissance ?» Le marquis, remarquant le trouble croissant d'Herminie et certain d'avoir enfin découvert la fille naturelle de la comtesse, poursuivit « La lettre que vous m'aviez écrite, au nom de madame de Beauménil, m'a signé chez elle un rendez-vous. À une heure assez avancée de la soirée, n'est-ce pas, vous vous rappelez cela ? Oui, monsieur. À ce rendez-vous, je suis venu. La comtesse se sentait près de sa fin, continua le bossu d'une voix altérée. Après avoir recommandé sa fille Ernestine à ma sollicitude, madame de Beauménil m'a supplié de lui rendre un dernier service. Elle m'a conjuré de partager mes soins, mon intérêt, entre sa fille et une autre jeune personne qui ne lui était pas moins chère que son enfant. « Il sait tout, » se dit Herminie avec un douloureux accablement. « La faute de ma pauvre mère n'est pas un secret pour lui. » « Cette autre personne, » continua le bossu de plus en plus ému, « était, » m'a dit la comtesse, « un ange. » « Oui, ce sont ses propres paroles. Un ange de vertu, de courage. » « Une noble et vaillante fille, » ajouta le marquis dont les yeux se mouillèrent de larmes, « une pauvre orpheline abandonnée qui, sans appui, sans secours, luttait à force de courage, de travail et d'énergie contre le sort le plus précaire, souvent le plus pénible. Oh, si vous l'aviez entendue, avec quel accent de tendresse déchirante elle parlait de cette jeune fille. Malheureuse femme, mère infortunée, car de ce moment j'ai deviné, quoiqu'elle ne m'ait fait aucun aveu, retenue par la honte, sans doute. J'ai deviné qu'une mère seule, pouvait ainsi parler, ainsi souffrir en songeant au sort de sa fille. Non, oh non, ce n'était pas une étrangère que la comtesse me recommandait avec tant d'instance à son lit de mort. Le marquis, dont l'émotion était à son comble, s'arrêta un instant et essuya ses yeux baignés de larmes. « Oh, ma mère !» se dit Herminie en tâchant de se contraindre. « Tes dernières pensées ont été pour ta fille. » « J'ai juré à madame de Beauménil mourante, reprit le bossu, d'accomplir ses dernières volontés, de partager ma sollicitude entre Ernestine de Beauménil et la jeune fille pour qui la comtesse m'implorait si vivement. Alors elle m'a remis ce portefeuille, et le bossu le tira de sa poche, qui contient, m'a-t-elle dit, une petite fortune, me chargeant de la remettre à cette jeune fille dont le sort serait ainsi à jamais assuré. Malheureusement, madame de Beauménil a expiré avant d'avoir pu me dire le nom de l'orpheline. Il n'a que des soupçons, Dieu soit béni, se dit Herminie avec un ravissement ineffable. Je n'aurai pas la douleur de voir un étranger instruit de la faute de ma mère. Sa mémoire restera pure. Vous jugez, ma chère enfant, de mon angoisse, de mon chagrin. Comment accomplir la dernière volonté de madame de Beauménil, ignorant le nom de cette jeune fille ? Reprit le bossu en regardant Herminie avec attendrissement. Cependant, je me suis mis en quête, et enfin, après bien de vaines tentatives, cette orpheline, je l'ai trouvée. Belle, vaillante, généreuse, telle enfin que sa pauvre mère me l'avait dépeinte, sans me la nommer, et cette jeune fille, c'est vous, mon enfant, ma chère enfant, s'écria le bossu en saisissant les deux mains d'Herminie, et il ajouta avec un élan de bonheur et de tendresse indicible, ah, vous voyez bien que j'avais le droit de vous appeler mon enfant. Oh non, jamais père n'aura été plus fier de sa fille. Monsieur, répondit Herminie d'une voix qu'elle tâchait de rendre calme et ferme. « Quoiqu'il m'en coûte beaucoup de détruire votre illusion, il est de mon devoir de le faire. Que dites-vous ? » s'écria le bossu. « Je ne suis pas, monsieur, la personne que vous cherchez, » répondit Herminie. Le marquis recula d'un pas et regarda la jeune fille sans pouvoir d'abord trouver une parole. Pour résister à l'entraînement de la révélation que venait de lui faire monsieur de Maillefort, il fallut à Herminie un courage héroïque, né de ce qu'il y avait de plus pur, de plus saint dans son orgueil filial. La fierté de la jeune fille se révoltait à la seule pensée d'avouer la honte maternelle aux yeux d'un étranger, en se reconnaissant devant lui pour la fille de madame de Beauménil. De quel droit Herminie pouvait-elle confirmer les soupçons de cet étranger ? Par l'aveu d'un secret que la comtesse n'avait pas voulu lui confier à lui, M. de Maillefort, son ami le plus dévoué, un secret que sa mère, à elle, avait eu la force de lui taire, lorsque, la pressant sur son sein, les battements de leurs deux cœurs s'étaient confondus. Pendant que ces généreuses pensées venaient en foule à l'esprit d'Herminie, le marquis, stupéfait du refus de la jeune fille, dont il ne pouvait se résoudre à mettre en doute l'identité, cherchait en vain à deviner la cause de cette étrange résolution. Enfin, il dit à Herminie, un motif qu'il m'est impossible de pénétrer vous empêche de me dire la vérité, ma chère enfant. Ce motif, quel qu'il soit, doit être noble et généreux. Pourquoi me le cacher à moi, l'ami, le meilleur ami de votre mère, à moi qui viens remplir auprès de vous ses dernières volontés? Cet entretien est aussi douloureux pour moi que pour vous, monsieur le marquis, répondit tristement Herminie, car il me rappelle cruellement une personne qui était remplie de bienveillance à mon égard, pendant le peu de temps où j'étais appelé près d'elle. Seulement comme artiste et à aucun autre titre, je vous en donne ma parole. J'ose croire que cette déclaration vous suffira, monsieur le marquis, et m'épargnera de nouvelles insistances. Je vous le répète, je ne suis pas la personne que vous cherchez. À cette déclaration d'Herminie, le marquis sentit renaître ses incertitudes, cependant, ne voulant pas encore renoncer à tout espoir, il reprit. « Mais non, non, je ne saurais m'abuser à ce point. Jamais je n'oublierai la sollicitude, les prières de madame de Beauménil en faveur de... Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le marquis, et de vous dire que, trompé peut-être par les émotions d'une scène déchirante pour votre cœur, vous vous serez mépris. » Sur la nature de l'intérêt que Madame de Beauménil portait à l'orpheline dont vous me parlez. Pour défendre la mémoire de Madame de Beauménil contre votre erreur, je n'ai d'autre droit que celui de la reconnaissance. Mais la respectueuse estime que Madame la Comtesse inspirait à tous me fait croire à une erreur de votre part. » Cette manière de voir était trop d'accord avec les désirs de M. de Maillefort pour qu'il n'inclinât pas à se rendre à l'observation d'Herminie. Cependant, au souvenir de l'émotion déchirante de la comtesse lorsqu'elle lui avait recommandé l'orpheline, il reprit « Encore une fois, on ne parle pas ainsi d'une étrangère. »« Qui c'est, monsieur le marquis ?» répondit Herminie en défendant le terrain pied à pied. « On m'a cité tant de preuves de générosité de madame de Beauménil. Son affection pour ceux qu'elle secourait était, dit-on, si chaleureuse, qu'elle se sera ainsi manifestée en faveur de l'orpheline qui vous a été recommandée. Et puis, si cette jeune fille est aussi méritante que malheureuse, cela ne suffit-il pas pour motiver le vif intérêt que lui portait madame de Beauménil? Peut-être enfin, cette mystérieuse protection était-elle un devoir pieux, qu'une amie avait confié à madame la comtesse de Beauménil, comme celle-ci vous l'a légué à son tour? Alors, pourquoi cette prière formelle de toujours taire à la personne à qui je dois remettre ce portefeuille, le nom de la comtesse? Parce que madame de Beauménil, cette fois encore, aura voulu cacher sa bienfaisance. » Herminie, ayant retrouvé son calme, son sang-froid, discutait ses raisons avec un tel détachement que le marquis finit par penser qu'il s'était trompé et avait injustement soupçonné madame de Beauménil. Alors une idée nouvelle lui vint à l'esprit et il s'écria. « Mais en admettant que le mérite et les malheurs de cette orpheline soient ses seuls et véritables titres, « ne serait-il pas les vôtres, cher et vaillant enfant? Pourquoi ne serait-ce pas vous que la comtesse a voulu désigner ?»« Je connaissais depuis trop peu de temps madame de Beauménil pour mériter de sa part une telle marque de bonté, monsieur le marquis. Et puis enfin, mon nom n'ayant pas été prononcé par madame la comtesse, je m'adresse à votre délicatesse. Puis-je accepter un don considérable sur votre seule supposition qu'il pouvait m'être destiné ?»« Oui, cela serait vrai si vous ne méritiez pas ce don. » Et comment l'aurais-je mérité, monsieur le marquis? Par les soins dont vous avez entouré la comtesse, par les soulagements que vous avez apportés à ses douleurs, et ces soins, comment se fait-il qu'elle ne les ait pas reconnus? Je ne vous comprends pas, monsieur. Le testament de la comtesse renferme plusieurs legs. Seul, vous avez été oublié. Je n'avais aucun droit à un leg, monsieur le marquis. J'étais rémunéré de mes soins. Par madame de Beauménil? Par madame de Beauménil, répondit Herminie d'une voix assurée. « Oui, c'est ce que vous avez déclaré à madame de la Rochegue en venant généreusement lui rapporter. De l'argent qui ne m'était pas dû, monsieur le marquis, voilà tout. » « Encore une fois, non, » s'écria monsieur de Maillefort, revenant invinciblement à sa première certitude. « Non, je ne me suis pas trompé. Instinct, pressentiment ou conviction, tout me dit que vous êtes monsieur le marquis, » dit Herminie en interrompant le bossu. Et voulant mettre un terme à cette pénible scène, un dernier mot. Vous étiez le meilleur des amis de madame de Beauménil, car elle vous a légué en mourant le soin de veiller sur sa fille légitime. Comment ne vous aurait-elle pas aussi confié à ce moment suprême qu'elle avait un autre enfant? Eh mon Dieu! S'écria involontairement le marquis. La malheureuse femme aura reculé devant la honte d'un pareil aveu. Oui, je n'en doute pas, pensa Herminie avec amertume. Et c'est moi qui ferai cet aveu de honte devant laquelle ma mère a reculé. » L'entretien du bossu et d'Herminie fut interrompu par le retour de M. Bouffard. L'émotion du marquis et de la jeune fille était telle qu'il n'avait pas entendu M. Bouffard ouvrir la première porte d'entrée. Le farouche propriétaire semblait complètement radouci et apaisé. À son air insolent et brutal avait succédé une physionomie à la fois narquoise et sournoise. « Que voulez-vous encore, monsieur ?» lui demanda rudement le marquis. « Que venez-vous faire ici ?»« Je viens, monsieur, faire mes excuses à mademoiselle. »« Vos excuses, monsieur ?» dit la jeune fille, très surprise. « Oui, mademoiselle, et je tiens à vous les faire devant monsieur, car je vous ai reproché en sa présence de ne pas me payer. Et je déclare devant lui, je jure devant Dieu et devant les hommes, » ajouta M. Bouffard, en levant la main comme pour prêter serment, tout en riant d'un gros rire bête, que lui inspire sa plaisanterie. « Je jure que j'étais payé. de ce que mademoiselle me devait. « Vous avez été payé, » dit Herminie au comble de l'étonnement. « Et par qui donc, monsieur ?»« Parbleu, vous le savez bien, mademoiselle, » dit M. Bouffard en continuant son rire stupide. « Vous le savez bien, quelle malice !»« J'ignore ce que vous voulez dire, monsieur, » reprit Herminie. « Allons donc, » dit M. Bouffard en haussant les épaules. « Comme si les beaux yeux bruns payaient les loyers des belles blondes pour l'amour de Dieu. »« Quelqu'un vous a payé pour moi, monsieur ?» dit Herminie en devenant pourpre de confusion. « On m'a payé, et en bel et bon or encore, » répondit M. Bouffard, en tirant de sa poche quelques louis qu'il fit sauter dans sa main ouverte. « Voyez plutôt ces jaunets, sont-ils gentils, hein ?»« Et cet or, monsieur ?» dit Herminie, toute tremblante, et ne pouvant croire à ce qu'elle entendait. « Cet or, qui vous l'a donné ?»« Faites donc l'innocente, et la rosière, ma petite. Celui qui m'a payé était un très joli garçon, ma foi. » Un grand brun, taille élancée, petite moustache brune. Voilà son signalement pour son passeport. Le marquis avait écouté M. Bouffard avec une surprise et une douleur croissante. Cette jeune fille, pour qui jusqu'alors il avait ressenti un si profond intérêt, était soudain presque flétrie à ses yeux. Après avoir froidement salué Herminie, sans lui dire un seul mot, M. de Maillefort se dirigea vers la porte, les traits empreints d'une tristesse amère. « Ah ! Fit-il avec un geste de dégoût et d'accablement. « Encore une illusion de perdu. » Et il s'éloigna. « Restez, monsieur !» s'écria la jeune fille en courant à lui, tremblante, éperdue de honte. « Oh, je vous en conjure, je vous en supplie, restez !»